Allez, on va accueillir comme il se doit notre invité, Michel Favret. Bonjour, bienvenue Michel.
Bonjour Joël.
Allez, la chronique Castro numéro 32. On aime bien nous mettre de numéros.
Oui,
ça cause quelques repères. Hein.
Ça veut dire que ça fera bientôt 3 ans qu'on fait la rubrique.
Voilà, mais on fêtera ça, hein, bien sûr. Hein. Mélodie, vous pouvez commencer à préparer le gâteau. Alors plus sérieusement, c'est vrai que Michel, juste avant que vous commenciez votre chronique, alors rappelez hein, l'association que vous représentez, Constellation The Galaxy, en quelques mots.
Oui, c'est une association qui est basée en Dordogne, hein, près de Mussidan. Et qui agit dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique et plus spécialement dans le domaine de l'astronomie, en particulier avec un planétarium itinérant qui se rend sur une large région, hein, ça va de Bordeaux à Brive et d'Angoulême à Villeneuve-sur-Lot, pour montrer dans des collèges, dans des écoles, le ciel aux élèves, apprendre un peu le béaba de l'astronomie. Et là, bon, on est un peu à la fin de l'année scolaire, ça marche aussi en été avec des centres de loisirs ou de vacances qui nous accueillent.
Voilà, on le redonnera tout à l'heure, mais constellationzegalaxy.org donne plus d'infos. Allez Michel, vous allez donc attaquer, si je puis dire, cette 32e chronique à Astro. Voilà, pour commencer, vous allez parler de l'actu. Alors on va parler de l'observatoire, comme je disais, hein, ici, voilà, sur la métropole bordelaise, sur la rive droite. Voilà, c'est un sujet sensible. Mais tout d'abord, hein, sur l'actu, peut-être un retour, parler du retour de Thomas Pesquet sur Terre.
Oui. Depuis son arrivée à bord de l'ISS, hein, la Station Spatiale Internationale, le 19 novembre dernier, nous avons évoqué à plusieurs reprises les activités de Thomas Pesquet, notamment pour sa sortie dans l'espace du 13 janvier. Sa mission de 6 mois est maintenant achevée et son retour sur Terre, initialement prévu autour du 15 mai, était légèrement retardé et il devrait se dérouler vendredi après-midi. On pourra suivre cet événement en direct à partir de 12h30 sur le site internet du CNES dédié à la mission Proxima. Je pense qu'on pourra mettre le lien sur le site web. Le vaisseau Soyouz qu'il ramènera doit se séparer de l'ISS vers 12h50 et atterrir au Kazakhstan vers 16h10. Malgré presque 200 jours en orbite, il ne battra pas à quelques jours près le record du plus longtemps passé dans l'espace par un Français qui est détenu par Jean-Pierre Aigneret avec 209 jours, mais en deux missions à bord de la station russe Mir, une en 1993 puis la seconde en 1999, d'une durée de 186 jours qui était la plus longue à bord de Mir pour un cosmonaute non russe. À bord de Soyouz, Thomas Pesquet sera accompagné du cosmonaute russe Oleg Novitsky, hein, j'espère que je prononce pas trop mal, qui quitte aussi la station. L'équipage de l'ISS doit être complété en juillet prochain avec l'arrivée de 3 nouveaux astronautes, dont l'italien Paolo Nespoli pour l'ESA, l'agence spatiale européenne, qui a déjà effectué 2 missions vers l'ISS en 2007 et 2010. Alors puisque je reparle de l'ISS, je pense que la plupart des auditeurs ont entendu parler de la sortie dans l'espace qui a été réalisée la semaine dernière, pour réparer en urgence un boîtier informatique gérant des systèmes vitaux pour le vaisseau. Même si toute sortie extravéhiculaire est une opération délicate, hein, comme j'avais expliqué en janvier, la situation des astronautes à bord de l'ISS est relativement confortable, parce qu'orbitant à 400 km d'altitude, on peut communiquer avec eux en temps réel, et en cas de péril grave, une partie de l'équipage pourrait être évacuée à bord du Soyouz, qui reste arrimé en permanence à la station. Pour ceux qui imaginent une expédition humaine vers Mars, je les invite à penser à la situation de l'équipage livré à lui-même, hein, en cas de panne, pendant plusieurs mois, avec une impossibilité totale de retour sur Terre et des communications qui peuvent être ralenties par des délais de transmission de plusieurs minutes. On peut se souvenir du sauvetage miraculeux de l'équipage Apollo 13 qui n'a pourtant jamais été à plus de 3 jours de trajet de la Terre. Un autre élément à prendre en compte, si vous regardez vendredi, le retour de Thomas Pesquet, en voyant les images des astronautes de retour sur Terre complètement handicapés par l'effet de la gravité après un séjour de 6 mois en apesanteur, on peut se poser la question de l'état d'arrivée d'un équipage sur Mars après un voyage d'une durée similaire. Et là-bas, il n'y aura personne pour les aider à sortir de leur engin, à se réadapter progressivement à leur poids et à retrouver leur équilibre. Hein, pas même de petits hommes verts, on sait bien qu'il n'y en a pas. Je le répète une fois encore, aller sur Mars, ça n'a rien à voir avec nos petits sauts de puce en orbite terrestre ou vers notre proche voisine, la Lune.
Allez, toujours dans l'actu, Michel. Alors, une association pour sauver le site de l'observatoire de Florac.
Voilà, j'ai déjà évoqué ici à maintes reprises ce site qui m'intéresse pour l'avoir visité, avoir pu apprécier les bâtiments historiques et les instruments qu'il renferme, mais aussi dans le cadre de notre démarche militante pour la construction du grand planétarium fixe qui manque tant à Bordeaux. L'observatoire nous paraissant être l'écrin idéal pour son installation. Hein, je rappelle que Bordeaux est une des rares grandes villes de France à ne pas posséder de planétarium. Et je dois dire que ça m'amuse un peu à chaque fois. La semaine dernière, je suis parti dans les Landes sur l'autoroute de voir en arrivant près de Bordeaux des grands panneaux Bordeaux, cité de l'aéronautique et de l'espace, alors qu'il n'y a pas de planétarium. Alors, j'avais poussé un coup de gueule en septembre dernier en constatant qu'après le départ programmé des enseignants-chercheurs vers le pôle universitaire de Talence, le site de Floirac était laissé pratiquement à l'abandon et dans une situation plutôt précaire. Aujourd'hui, je suis toujours inquiet pour son avenir, mais il y a quand même une petite lueur d'espoir car une association de défense a été créée en avril dernier. Une première réunion que je qualifierais de publique s'est tenue le 6 mai à Floirac et les participants ont été nombreux à répondre présents au point qu'il a fallu ajouter des tables d'échecs pour les accueillir tous. Ils provenaient d'horizons divers, hein, il y avait des astronomes professionnels du LAB, le laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, des membres des sociétés d'astronomie de Bordeaux et de France, des astronomes amateurs de différents clubs de la région, des représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique ou de simples riverains de l'observatoire. Malgré les intérêts particuliers de chacun, l'inquiétude concernant l'avenir du site et le souci de le préserver était unanimement partagée, avec de nombreuses propositions pour les activités qu'il pourrait accueillir. J'invite les auditeurs qui partagent ces préoccupations à visiter le site de l'association Sirius, hein, c'est sirius-floirac.fr, et surtout de signer la pétition en ligne pour soutenir son action. On peut y accéder soit depuis le site de l'association dans la rubrique News, ou directement sur le site qu'il héberge, hein, c'est www.change.org, en cherchant par exemple le mot-clé Floirac. Plus nous serons nombreux à signer cette pétition, plus notre voix sera entendue par les institutions qui peuvent peser sur le futur de l'Observatoire, notamment les collectivités locales, l'État et surtout l'Université de Bordeaux. Hier, il y avait un peu plus de 1700 signataires. Nous pourrons voir d'ici la fin de la semaine si mon appel sur les ondes de Odo Radio nous aura permis d'augmenter un peu le score. Et pour un soutien encore plus marqué, on peut aussi adhérer à l'association pour une cotisation modique, hein, symbolique de 10 euros.
Allez, deuxième partie, le sujet, le thème, les grands télescopes. Et pourquoi justement ferme-t-on des observatoires, à l'instar de celui de Floirac dont vous venez de parler à l'instant?
Voilà, au fil de mes chroniques, il m'est souvent arrivé de citer des noms d'observatoires, comme le fameux VLT ou des télescopes spatiaux. Et on peut se demander effectivement pourquoi d'un côté on construit des télescopes de plus en plus grands et de l'autre on cesse d'utiliser d'autres observatoires comme celui de Bordeaux. Je crois donc utile de faire un point sur cette évolution et d'expliquer quelles sont les raisons de ces changements, mais uniquement dans le domaine des télescopes optiques, hein, car il serait trop long de parler de tous les autres types d'observatoires utilisés en astronomie aujourd'hui, comme par exemple les radiotélescopes, les détecteurs d'ondes gravitationnelles ou les détecteurs de particules cosmiques. Si on refait un rapide historique, on constate que l'observation s'est faite uniquement à l'œil nu jusqu'en 1609, quand Galilée a tourné sa toute petite lunette vers le ciel, ce qui a complètement révolutionné l'astronomie. Elle ne faisait que dans les 5 cm de diamètre, et pour avoir eu l'occasion de mettre l'œil derrière une réplique moderne, je peux dire qu'on n'y voit pas grand-chose par rapport à un tout petit instrument d'amateur d'aujourd'hui, même en la braquant vers la Lune. Jusqu'au 19e siècle, et même au début du 20e, on a construit des grandes lunettes. Le record étant, hein, on peut pousser un petit cocorico, la grande lunette de l'Exposition universelle de Paris en 1900, avec un diamètre de 1,25 m. Démontées à la fin de l'exposition, ces lentilles sont encore à l'Observatoire de Paris. On peut visiter certaines de ces grandes lunettes en France, par exemple à l'observatoire de Nice, elle fait 76 cm et c'est la quatrième plus grande lunette du monde encore en activité aujourd'hui, ou à l'observatoire de Strasbourg avec une lunette de 50 cm, ou plus près de nous, la grande lunette équatoriale de 40 cm située à l'observatoire de Floirac, du moins quand on pouvait encore le visiter. Il n'y a jamais eu d'énormes lunettes de plusieurs mètres de diamètre, car il est techniquement très difficile et coûteux de fabriquer de grandes lentilles. Les très grands instruments doivent leur existence à Isaac Newton, qui a inventé en 1671 le télescope qui porte son nom. Il est basé sur un miroir concave qu'il est possible aujourd'hui de construire dans de très grands diamètres. Celui de Newton faisait seulement 6 pouces, soit environ 15 cm, mais assez vite, des télescopes beaucoup plus gros ont été construits. Par exemple, dans les années 1840, à Birr, en Irlande, un télescope de 72 pouces, c'est-à-dire 1,83 m, surnommé le Léviathan, qui est resté le plus grand du monde pendant plus de 70 ans. Son miroir était en bronze poli, car on ne savait pas à l'époque réaliser de très grands miroirs en verre, et il pesait plus de 3 tonnes. Il a été détrôné en 1917 par celui du mont Wilson aux États-Unis, près de Los Angeles, avec un miroir de 2,50 m. Dépassé à son tour en 1948 avec le télescope de 5 mètres du mont Palomar, près de San Diego, également en Californie. Il est facile de comprendre que plus le miroir est grand, plus on récolte de lumière, ce qui rend mieux visibles les objets très faibles comme les nébuleuses et les galaxies. On peut aussi les grossir plus et on peut distinguer de plus petits détails, car le pouvoir de résolution dépend directement du diamètre de l'instrument. Ces grands instruments ont donc marqué des étapes décisives dans les progrès de l'astronomie. Si avec des lunettes d'environ 20 cm, l'astronome français Charles Messier avait établi vers la fin du XVIIIe siècle une liste d'une centaine d'objets diffus, hein, donc des nébuleuses, des galaxies, des amas d'étoiles, Avec le Léviathan ou d'autres télescopes de ce genre, William Herschel puis son fils John établirent le General Catalog publié en 1864 qui en contenait 5000, soit 50 fois plus. Le 2,50 m du mont Wilson a permis à l'astronome américain Hubble de découvrir dans les années 1920 que certains objets classés comme nébuleuses jusque-là étaient en fait d'autres galaxies, puis de constater qu'elles semblaient toutes s'éloigner de nous, ce qui est à l'origine du modèle de l'univers en expansion, conduisant au modèle actuel du Big Bang.
En observant directement ou sur des photos, Michel ?
Alors c'est vrai qu'en parallèle de l'évolution des optiques, les techniques d'observation ont également évolué. Au départ, il s'agissait de mettre l'œil à l'oculaire, ce qui peut être assez acrobatique sur un grand instrument comme le Léviathan où on est à des mètres et des mètres de hauteur, et de faire des dessins. Au XIXe siècle, les astronomes commencent à utiliser la photographie. En 1840, avec une photo de la Lune, qui est un objet très brillant, et les étoiles plus faibles à partir de 1850, et encore un peu plus tard pour les nébuleuses vers 1880, pour celle d'Orion qui est la plus brillante. C'est par la photo, en étudiant des étoiles variables particulières, qu'on appelle les céphéides, que Hubble a pu calculer la distance de la grande nébuleuse d'Andromède, comme on l'appelait à l'époque, et constater qu'elle était bien trop loin pour faire partie de notre galaxie, la Voie lactée, et constituait donc une autre galaxie. Pour découvrir l'expansion de l'univers, il a bénéficié d'une autre technique, la spectrographie, utilisée sur des étoiles à partir des années 1860. Cela consiste à tirer beaucoup d'informations, comme par exemple la température ou la vitesse de déplacement, en analysant la lumière de l'objet décomposée sous forme d'un spectre, comme le font les gouttes d'eau en produisant un arc-en-ciel avec la lumière solaire. Il est facile de comprendre que lorsqu'on décompose la lumière, avec un prisme par exemple, on étale la lumière captée par le télescope. Donc si on veut une photo exploitable, il vaut mieux en recueillir un maximum, donc utiliser des télescopes plus grands, d'autant plus si on veut observer des objets de plus en plus lointains, donc de moins en moins lumineux. Il faut savoir que la même source de lumière, par exemple un lampadaire dans la vie courante, est vue 4 fois moins lumineuse à chaque fois qu'on double la distance qui nous sépare. À partir de ce constat, on comprend facilement la course au télescope de plus en plus grand pendant tout le XXe siècle et encore pour les prochaines décennies. Avec le télescope de 5 mètres du Mont Palomar, de nombreuses découvertes ont été faites sur les galaxies et les quasars notamment. Mais on a fait plus gros depuis. Si l'on récapitule les constructions des grands télescopes durant la deuxième moitié du XXe siècle, on trouve notamment des télescopes de 3,50 m à 6 m européens et américains au Chili dans les années 70, puis encore plus grands jusqu'à 10 m dans les années 90, toujours au Chili et à Hawaï. En regardant de plus près, outre la course à la taille, on peut constater deux évolutions majeures. La région d'implantation, près de l'équateur ou dans l'hémisphère sud, et de nouvelles technologies optiques mises en œuvre. Pour l'implantation, presque tous les grands télescopes étaient auparavant situés dans l'hémisphère nord, tout simplement parce qu'ils étaient construits sur le territoire principal des États qui en avaient les moyens, donc surtout en Europe et aux États-Unis. Malheureusement, du point de vue astronomique, ce n'était pas très heureux, car les régions équatoriales et l'hémisphère sud permettent d'observer des zones du ciel particulièrement intéressantes et qui sont inaccessibles depuis le nord. Par exemple, le centre de notre Voie lactée, la galaxie donc, qui est la nôtre, est très bas sur l'horizon en été sous nos latitudes, alors qu'il peut se présenter dans des conditions idéales au zénith, donc à la verticale au-dessus de nos têtes, quand on est plus au sud, comme dans le désert de l'Atacama au Chili. De plus, on y accède à la partie sud de la Voie lactée, qui n'est jamais visible ici, tout comme les fameux nuages de Magellan, deux petites galaxies naines voisines de la nôtre. Cette évolution vers le sud a notamment été impulsée par la création de l'ESO, European Southern Observatory, donc les observatoires de l'hémisphère sud européen, enfin, c'est les observatoires qui sont européens, pas l'hémisphère sud, en 1962, à l'initiative d'astronomes allemands et français voulant rester dans la course au grand télescope après la mise en service du 5 mètres américain et dans le sud pour compléter la vision accessible depuis le Mont Palomar. Le choix définitif de l'implantation au Chili a été pris après des études très minutieuses de la météorologie et de la transparence de l'atmosphère sur les sites possibles, le désert de l'Atacama offrant des conditions exceptionnelles avec son altitude, son air très sec et très stable et loin de toute pollution lumineuse humaine. Au VLT, par exemple, on observe en moyenne 320 jours par an. À partir de là, je crois que nos auditeurs peuvent comprendre que les anciens observatoires européens, comme celui de Bordeaux, ne correspondent plus aux critères scientifiques actuels, avec leurs instruments trop petits, situés dans l'hémisphère nord et avec un ciel de plus en plus pollué par l'éclairage des agglomérations voisines. Ils peuvent néanmoins être encore employés dans des domaines particuliers, moins exigeants, comme par exemple la photométrie d'étoiles variables, les transits d'exoplanètes ou l'observation des astéroïdes. En France métropolitaine, il reste quand même encore deux grands télescopes en activité, chacun d'environ 2 mètres de diamètre. Un à l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence, et l'autre au Pic du Midi, dans les Pyrénées. Cela n'empêche pas les astronomes et astrophysiciens français, dont ceux du Lab à Bordeaux, de rester à la pointe de la recherche en exploitant des images produites par des grands télescopes situés à des milliers de kilomètres ou dans l'espace, comme Hubble, et souvent d'ailleurs dans des cadres de coopération internationale. Malheureusement, cela fait bien longtemps que l'astronomie se pratique derrière un écran d'ordinateur et plus sous une coupole, l'œil rivé à l'oculaire.
Et l'évolution technique des optiques, alors ?
Alors, avec des diamètres de l'ordre de 6,50 m, hein, dont je parlais dans les années 70, on a atteint une limite technologique, car le miroir, en une seule pièce, est très épais pour qu'il ne se déforme pas quand on le tourne vers différents endroits du ciel, nécessite un refroidissement très lent pour éviter l'apparition de petites fissures dans le verre qui produirait des défauts de surface lors du polissage et donc des images de moins bonne qualité. Pour augmenter encore la taille, donc la masse de verre à refroidir, il a fallu passer à des miroirs plus fins, dont la géométrie est contrôlée en permanence par le système qu'on appelle optique active. Ce sont des petits vérins pilotés par ordinateur qui compensent en temps réel les déformations en poussant derrière le miroir. L'exemple extrême de cette technique sont les 4 télescopes de 8,20 m du VLT, hein, donc le Very Large Telescope de l'ESO, dont chaque miroir ne fait que 17 cm d'épaisseur. Si on essayait de les soulever par le bord, ils se casseraient sous leur propre poids. Mais il a fallu quand même 2 ans pour les refroidir doucement. Pour aller encore plus loin, on a renoncé à la solution du miroir unique pour construire des miroirs constitués d'un assemblage de miroirs hexagonaux plus petits. C'est le cas de tous les grands télescopes mis en service après le VLT, tous d'une taille de l'ordre de 10 mètres. Il y en a deux qui s'appellent Keck, qui sont américains à Hawaï, le grand Telescopio Canarias, hein, GTC à La Palma, aux Canaries, le SALT, donc South Africa Large Telescope, en Afrique du Sud, que je compte d'ailleurs aller visiter au mois de septembre, ou le Subaru au Japon, qui lui fait seulement dans les 8,30 m. Et ce sera encore le cas des futurs projets qui doivent être mis en service dans les années 2020.
Parce qu'on va faire encore plus ?
Oui, il faut comprendre que les domaines les plus en pointe dans l'astronomie moderne nécessitent l'observation d'objets toujours plus faibles et plus petits. C'est le cas par exemple des exoplanètes, dont l'étude peut nous aider à comprendre notre propre système solaire et peuvent apporter des réponses décisives au sujet d'une éventuelle vie extraterrestre. Et pour tout ce qui concerne la compréhension de la naissance et de l'évolution de l'univers, hein, notre modèle actuel du Big Bang, il faut étudier des galaxies très lointaines, donc très peu lumineuses. En effet, comme la vitesse de la lumière est finie, plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé. Par exemple, on voit notre galaxie voisine, celle d'Andromède, comme elle était il y a environ 2,5 millions d'années, le temps que la lumière a mis pour nous parvenir. Dans les très grands télescopes, on observe à des milliards d'années dans le passé, nous rapprochant toujours plus du Big Bang, estimé aujourd'hui à environ 13,8 milliards d'années avant notre époque. Pour progresser, il faut donc construire des télescopes bien plus grands. Et dans les années qui viennent, on va faire un saut spectaculaire avec un facteur 4 dans la taille. L'un des projets majeurs est celui de l'ESO avec son IELT, European Extremely Large Telescope, dont la construction a commencé à une 20aine de kilomètres du VLT et qui fera 39 mètres de diamètre. Au départ, l'ESO avait même envisagé un télescope de 100 mètres, mais on a revu le projet à la baisse. Une petite anecdote pour illustrer ce changement d'échelle. Lorsque j'ai vu pour la première fois une maquette de l'IELT, j'ai remarqué qu'on avait remplacé les petites figurines humaines pour donner l'échelle par un camion miniature. Avec le VLT, que j'ai visité en 2003, le miroir ressemble à une petite patinoire, alors qu'avec l'IELT, on s'approchera de la moitié d'un terrain de foot. Il devrait être mis en service en 2024. De leur côté, les Américains, avec d'autres partenaires, dont la Chine et le Japon, envisagent aussi la construction d'un télescope de 30 mètres, le TMT, un 30 mètres télescope, sauf que normalement c'est en anglais, qui devrait se situer à Hawaï, mais le site choisi pose des problèmes juridiques car il est considéré comme sacré par le peuple hawaïen. Fin mars 2017, un accord a été conclu avec l'Espagne pour installer ce télescope à La Palma, aux Canaries, si le site d'Hawaï doit être abandonné. C'est seulement dans un an, donc en avril 2018, que la décision d'implantation sera prise. Ce projet est donc beaucoup moins avancé que celui de l'ESO, ce qui n'est pas nouveau, car comme pour l'optique adaptative du VLT, les Européens sont souvent à la pointe du progrès pour les grands télescopes terrestres.
Allez, troisième partie de votre chronique, Michel, le ciel du mois, et vous allez commencer par nous parler des constellations et de la voûte céleste.
Voilà, avec l'approche du solstice d'été, le 21 juin, hein, le jour le plus long de l'année, donc la nuit la plus courte, il faut veiller très tard pour observer le ciel étoilé. En ce moment, le soleil se couche vers 21h40 et la nuit noire survient vers 23h seulement. Fin juin, ce sera encore un quart d'heure plus tard. Pour les constellations, hein, comme je le dis maintenant mois après mois, le plus simple est de consulter les cartes que nous mettons en ligne sur notre site web. On peut noter en ce moment le retour du ciel de l'été, qui commence à apparaître dès le début de nuit avec deux étoiles brillantes vers le nord-est, Vega de la Lyre et Deneb du Cygne, constellation qui ressemble à une grande croix formée par cinq étoiles brillantes, pratiquement à l'horizontale vers 23h. Elles sont rejointes rapidement par Altaïr de l'Aigle, avec laquelle elles forment le triangle de l'été, la figure centrale qui permet de se repérer facilement dans le ciel estival. Il sera bien levé à l'est dès la fin juin et nous en reparlerons cet été.
Allez, toujours le ciel du mois, les planètes.
Alors en ce moment, la très brillante Jupiter est visible au sud en début de nuit. Elle se couche vers 4h du matin. Fin juin, ce sera vers 2h. Avec une simple paire de jumelles, mais en stabilisant l'image, par exemple en s'appuyant les coudes ou en fixant les jumelles sur un trépied, on peut observer ces satellites les plus brillants, jusqu'à 4, comme des petites étoiles alignées de part et d'autre de Jupiter. Ils sont appelés galiléens, car découverts par Galilée, justement avec sa petite lunette, il y a à peu près 400 ans. Moins brillante, Saturne est de retour dans le ciel, à peine levée en début de nuit au sud-est, près de la constellation du Sagittaire pour ceux qui connaissent le ciel. Fin juin, elle sera nettement plus haute. Dans de simples jumelles, on ne peut pas distinguer les anneaux, hein, parce qu'il faut grossir beaucoup plus pour arriver à les voir. Le matin, vers l'est, c'est Vénus, qu'on peut voir à partir de 4h30 en ce moment, et presque jusqu'au lever du soleil, tellement elle est brillante. Fin juin, elle se lèvera avant 4h et montera un peu plus haut dans le ciel.
Les éphémérides.
Alors comme chaque mois, il y a toujours des conjonctions des planètes avec la Lune, c'est-à-dire un rapprochement des deux astres dans le ciel. Samedi soir, le 3 juin, la Lune gibbeuse sera très près de Jupiter, environ la largeur du pouce bras tendu, et s'en rapprochera encore jusqu'à l'heure couchée. Le vendredi suivant, le 9 juin, la pleine Lune se lèvera très près de Saturne, au sud-est. Puis il faudra attendre le mardi 20, vers 4h du matin, pour voir le croissant de Lune se lever un peu avant Vénus, puis le lendemain 21, un petit peu après Vénus. Alors comme on a parlé de Thomas Pesquet au début, je signale qu'on peut voir chaque soir en ce moment et jusqu'au 11 juin l'ISS traverser le ciel, hein, d'ouest en est en à peu près 5 à 6 minutes, comme un point très brillant, c'est à peu près la même luminosité que Jupiter dans le ciel, à des horaires variables d'un jour à l'autre, mais c'est toujours à peu près entre 22h15 et 23h45. Pour plus d'informations, on pourra aller consulter à partir de demain, parce que je vais mettre ça en ligne cet après-midi, la rubrique « Le ciel du mois » de notre site web où il y aura les horaires jour par jour.
Rappelez le site web, Michel, si vous voulez.
Alors, c'est www.constellationzegalaxie, tout au pluriel, tout attaché, .org. Et bien sûr, il y a la partie astronomie avec le ciel du mois, les cartes du ciel, les principaux événements comme les conjonctions qui se passent dans le mois et un petit peu plus d'informations sur les planètes. Et bien sûr, toute la partie concernant l'activité habituelle de constellations et galaxies, avec la partie planétarium dont j'ai parlé un petit peu au début. Donc si des enseignants ou des animateurs de centres de loisirs sont intéressés, ils peuvent avoir déjà pas mal d'infos, et en particulier les tarifs, parce que malheureusement tout ça n'est pas gratuit. Et il y a aussi une rubrique concernant les expositions, mais ça c'est spécifique à la Dordogne. Nous faisons circuler en Dordogne des expositions à thématiques scientifiques. Et d'ailleurs, scoop, j'ai appris la semaine dernière qu'heureusement, nous allons bénéficier d'un financement de la région, ce qui nous permettra de créer une nouvelle exposition sur la thématique du cerveau, qui est à l'honneur en ce moment en Aquitaine.
On aura l'occasion d'en reparler, certainement, bien sûr. Allez, on se revoit le 28 juin, c'est bien ça pour la date ?
Normalement, dernier mercredi du mois.
Voilà.
Du mois, pardon.
Chronique Astro numéro 33.
Voilà.
Voilà, en tout cas, merci Michel, chaque fois de venir, parce que... C'est la passion, certes, les compétences, mais c'est du travail, c'est chronique. Donc voilà, encore merci à vous, Michel. Et puis on se revoit le 28 juin. Et puis on fera circuler quelques infos émanant de votre site via notamment notre Facebook.
Et en particulier, la pétition à signer pour soutenir l'avenir du site
de l'Observatoire de Florac.
Voilà.